Salut à tous. Ce que vous entendez là, c'est un chantier. C'est des gars qui sont sur un chantier, juste en face de chez moi. J'habite au 5e étage et les gars sont au même niveau que moi. C'est un grand chantier, des grands échafaudages avec des toiles, etc. Je les vois bosser depuis plusieurs semaines. Mais ces temps derniers, il n'y avait plus personne. Bon, je les voyais de temps en temps pour vérifier les trucs. Mais maintenant, ils retravaillent carrément. Alors qu'à l'évidence, ce chantier fait partie des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne font pas partie des boulots absolument nécessaires dans la période que nous vivons. Voilà, c'est vraiment un symbole de ce dont nous allons parler, j'espère, entre autres avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour.
Bonjour.
On va parler de nationalisation, on va parler de planification, etc. Mais auparavant, j'ai sous les yeux un titre étonnant dans Le Parisien qui pose la question suivante. Et si la France faisait elle aussi appel à des médecins cubains ? Et je vois une photo qui représente effectivement des médecins cubains autour d'un portrait de Fidel Castro à leur arrivée en Italie. C'est une image tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses ?
Pour quelqu'un comme moi, je peux que savourer l'humour de la situation, si tu veux. Bon, les Cubains sont là, ils aident tout le monde, mais on avait déjà vu les Cubains à l'œuvre, à Haïti, dans toute la zone des Caraïbes. Ils sont aussi venus nous aider quand il y a eu la tornade, mais l'anticommunisme grossier, le racisme anti-caribéen de la presse parisienne, tout ça combiné, plus les habitudes médiatiques qu'on connaît bien, tu vois, comme appeler Fidel Castro le leader maximo, alors que jamais personne ne l'a appelé comme ça, c'est juste une caricature de la CIA. Et bon, pour un journaliste parisien, ça le fait d'insulter comme ça à distance, ça leur coûte rien. Et ils n'ont jamais tenu compte de l'importance de la médecine cubaine et du choix qu'a fait Cuba de développer les sciences et les techniques. Fidel disait, nous on fabrique pas de bombes, on n'a pas inventé le napalm, on n'a pas d'armes bactériologiques, on aide les autres et on soigne. Et des médecins cubains, il y en a eu partout, au Venezuela, en Bolivie, enfin partout, il y avait des problèmes liés à l'arriération sanitaire des pays. Les Cubains sont venus donner le coup de main, c'est assez spectaculaire à voir.
Ouais.
Et là, les voilà en Europe, alors là, c'est le monde à l'envers, parce qu'il faut quand même se rappeler que Cuba, c'est un tout petit pays. C'est une île dans les Caraïbes, et bon, c'est le monde à l'envers de voir une petite île comme ça venir aider l'Italie et d'autres pays. Et Cuba est toujours sous embargo des États-Unis d'Amérique, qui essayent d'étrangler, et continuent à essayer d'étrangler tout le monde autour d'eux. Le Venezuela, où ils ont mis la tête à prix de Maduro, et Cuba, évidemment. Alors, le portrait de Fidel, je ne sais pas si ça correspond, parce que moi, les images que j'ai vues, c'est quand ils ont débarqué, il y a le drapeau cubain, ils viennent comme peuple d'une nation. Alors, il faut se méfier, parce que la presse parisienne est assez spécialisée dans les photos bidons. Hein.
Ouais.
Mais bon, voilà, est-ce que la France doit faire appel aux Cubains ? Bah oui, s'ils ont une méthode qui fonctionne, s'ils savent faire, on peut leur demander conseil, il n'y a pas de honte, mais la honte, elle est pour nous, Français, d'être incapables de se prendre en charge, d'être incapables d'organiser la réplique. Puis je dirais pas seulement pour le peuple français, moi je ne cesse de dire depuis le début que la France, elle devrait être en état de produire par dizaines de millions, par centaines de millions, les masques, les respirateurs, peut-être pas centaines de millions pour les respirateurs, mais pour alimenter, être prêt à aller à la rescousse, comme les Cubains le font avec les Italiens, eh ben les Français devraient être prêts, si on les appelle, à aller aider dans tout le Maghreb et dans toute l'Afrique, au sud du Sahara, puisque nous avons quand même une responsabilité dans le sous-développement de cette sanitaire de cette région du monde.
Alors, tu as parlé de nationalisation, mais tu n'es pas le seul à parler de nationalisation. Tu as un certain Geoffroy Roux de Bézieux qui, lui aussi, est favorable à la nationalisation d'entreprises en grande difficulté. Est-ce que vous parlez de la même chose ?
Ah, je crois que non, parce que je pense que le Roux de Bézieux, c'est le patron du MEDEF. Donc, lui, son unique problème dans la vie, c'est les profits. Bon, alors quand il parle de nationalisation, il voudrait que l'État nationalise, c'est-à-dire socialise les pertes, nationalise les entreprises en grande difficulté pour après les remettre sur le marché une fois qu'il aura éponger la difficulté. Moi, c'est pas ça que je pense. D'ailleurs, les nationalisations, pour moi, ça n'est qu'une composante d'un plan beaucoup plus général que je nomme la planification de la mobilisation sanitaire. Alors, on peut appeler ça comme on veut, parce qu'il y a des gens, ils sont surtout effrayés par les mots. Hein. Donc, quand ils entendent planification, des fois, ils réfléchissent plus. Ils pensent que c'est l'URSS, je sais pas quoi. Bon, la planification, il y en avait en France ou de Gaulle, mais ils ont tous oublié.
Oui.
Alors, comme beaucoup des dirigeants et des commentateurs sont sous l'emprise d'une idéologie qui leur paralyse le cerveau, quand ils entendent planification, bah, ils ont peur et ils n'écoutent pas la suite du mot. Alors, on peut appeler ça autrement.
Oui.
Mais l'idée, c'est qu'il faut coordonner tous les moyens qu'il y a à mettre en œuvre pour atteindre un résultat, finalement, assez simple. Combien nous faut-il de masques dans ce pays par semaine ? Bon, alors, d'abord, on commence par dire combien il en faut, et puis après, on regarde où est-ce qu'on va pouvoir les produire. Il y a 1000 entreprises du textile et 100 000 ouvriers dans ce pays qui travaillent dans le textile. Bon, ça doit pas être, c'est pas la mer à boire de les mobiliser. D'ailleurs, il y a au moins une entreprise qui a changé toute seule sa ligne de production pour fabriquer des masques. Même réflexion pour les respirateurs. On a des usines d'automobiles qui ont toutes les machines dont on a besoin pour l'industrie mécanique à avancer. Moi, je dis automobile parce que en Grande-Bretagne, ce sont les constructeurs automobiles qui se sont proposés pour le faire. Pour les tests, c'est à peu près le même niveau. J'ai posé la question au docteur Rao, je lui ai dit, mais comment vous faites, vous, pour arriver à faire autant de tests en aussi peu de temps ? Et il m'a dit, bah, c'est rien, c'est un problème de logistique. Le test lui-même, il n'a rien de mystérieux. Donc là aussi, il faut produire les tests en très grande quantité. Donc c'est ça qu'il faut planifier. C'est mettre tous les compartiments de la production les uns à côté des autres, et puis voilà, réquisitionner, nationaliser quand on ne peut pas faire autrement, et y aller comme ça pour tous les compartiments. Par exemple, Sanofi sait fabriquer la chloroquine, bon, bah, très bien, il faut passer des commandes. Et il faut réquisitionner les usines, de même qu'il ne faut pas laisser les États-Unis d'Amérique acheter sur le marché tout ce qui leur tombe sous la main, y compris en France, ils achètent... vous savez, les tigettes qu'on met dans le nez qui servent pour faire les tests. Bon.
Oui.
Alors, comme c'est la loi du marché qui continue, la fameuse loi du marché sur laquelle Macron lui-même comptait, hein, il dit « Oh, ça ne sert à rien de produire en France, on va acheter aux autres. » Il n'avait juste pas réfléchi que les autres pouvaient décider qu'eux aussi acheter ou bien réserver leur production à eux-mêmes, ce qui s'est produit pour les Chinois pendant un temps. Et là, c'est les États-Unis d'Amérique qui achètent tout ce qui leur tombe sous la main. En ce moment, ils viennent d'acheter tout le stock d'une entreprise qui bosse, je crois, dans l'Aveyron. Et qui produit les petites tigettes pour le test. Voilà, donc tout ça est complètement incohérent et n'est pas organisé, et le pouvoir gesticule. Alors on les voit apparaître, ils font des points de presse, le président s'agite devant une tente militaire, utilise un vocabulaire guerrier, mais je crois qu'ils sont aussi mauvais pour la bataille, d'abord une épidémie, c'est pas une guerre, mais ils sont aussi mauvais pour ça. Alors je te dis pas ce qu'ils feraient en temps de guerre, ça serait épouvantable, quoi.
Ouais. Avec d'autres, hein, tu te préoccupes du monde d'après. Hein. La France insoumise, vous vous préoccupez de ça. Ruffin est là-dessus aussi. Mais d'autres, hein, tout le monde, il y a beaucoup qui... On se préoccupe du monde d'après.
Oui.
On peut, bien sûr, qu'on veut que les choses changent, évoluent, etc. Mais on peut être inquiet quand on voit l'état d'urgence sanitaire. On risque là vraiment d'avoir une privatisation, une réduction des libertés publiques, comme on l'a vu avec l'état d'urgence suite au Bataclan. Hein. Et les pouvoirs ne manquent jamais de profiter de l'émotion générale, du choc, pour réduire, pour reprendre le pouvoir sur les citoyens et, si possible, réduire ce truc très, très emmerdant qui s'appelle la démocratie. Donc, il y a un risque, là, non ?
Ah bah absolument. C'est plus qu'un risque, c'est une réalité. Alors, j'en profite pour dire une chose. Je pense que, dans notre pays, il y a tout un secteur de l'opinion, des intellectuels, qui sont en bataille contre l'ordre du monde qui a conduit à ce désastre depuis déjà de nombreuses années. Et évidemment, on a beaucoup annoncé des catastrophes, on en a vu, comme en 2008, mais ça n'avait jamais l'air de guérir personne du système. Alors cette fois-ci, évidemment, c'est toute cette fraction de la population dit « Ah ben on avait raison, donc maintenant il faut penser au monde d'après ». Alors je trouve ça très intéressant et très utile. Mais honnêtement, pour moi, le monde d'après, bon, d'une certaine manière, il est déjà contenu dans le programme « L'avenir en commun » que j'ai défendu, mais surtout je veux dire une chose, c'est que le monde d'après, c'est maintenant qu'il doit commencer. Parce que qu'est-ce qui aujourd'hui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui ? C'est l'égoïsme social, le goût du profit, la cupidité, le marché libre et non faussé, toutes ces sornettes qui ont mis le monde dans ce désastre, et c'est ça avec lequel il faut rompre maintenant, pas après. C'est maintenant, maintenant qu'il faut mettre la fraternité, l'entraide, la gratuité, le service public, l'État à l'ordre du jour. Alors, ça, c'est le premier compartiment. Moi, je ne cesse de répéter, le monde d'après commence maintenant. Et je crois que mes amis commettraient une erreur s'ils croient que on va attendre sagement, comme si la période actuelle était une période, si tu veux, où la politique serait mise entre parenthèses, sous couvert d'union sacrée, ou je ne sais quoi, quel grand mot qu'on utilise, qui sont des emballages pour dire « silence dans les rangs, taisez-vous, obéissez, et ne critiquez rien ni personne, même quand ce qui se fait est absolument stupide, comme c'est le cas de beaucoup de choses qui se font. » Alors l'autre problème que tu évoques, c'est celui de la démocratie. Alors là, tu mets le doigt au bon endroit, parce que nous, les députés insoumis, avec les députés communistes, on a refusé de voter leurs mesures d'urgence. Alors, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est qu'on a l'impression de s'être fait avoir, parce qu'on avait voté le projet de loi de finances. Alors, il n'engageait pas à grand-chose, il n'y avait rien pour les travailleurs, mais eux, ils prétendaient que comme ça, ils allaient améliorer. Et c'est vrai qu'il y avait une série de choses qui nous intéressaient dedans. Mais ils se sont dit, ah ben, puisque c'est comme ça, ça montre que les communistes et les insoumis vont tout avaler, donc on fait ce qu'on veut. Et dès le lendemain, ils ne répondaient plus à nos questions. On débattait, on leur posait des questions, on leur disait, écoutez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des tests systématiques alors que l'OMS dit il faut faire des tests systématiques? Je prends cet exemple parce que je le trouve très frappant. J'ai posé la question, je ne sais pas, 3-4 fois en séance publique. Ils répondaient jamais. Jamais, comme si on n'avait pas parlé, comme si on n'avait rien dit, comme si on n'était pas là. Je prends cet exemple, mais c'est loin d'être le seul dans le débat. Donc on a compris que pour eux, chaque fois que quelqu'un fait un geste pour dire « bon, on veut tenir compte de la difficulté dans laquelle vous êtes et tout », eux, ils en profitent aussitôt pour essayer d'en tirer un avantage et de frapper leurs adversaires. Tiens, je pourrais mettre dans le même ordre d'idées le fait qu'ils répètent tous que nous étions d'accord pour organiser le premier tour des élections municipales. Mais c'est absolument faux. Ils ne nous ont jamais posé la question. Mais pourtant, ils le répètent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent coller sur le dos des autres leur responsabilité. Donc, on a une équipe, là, qui pratique, qui a des méthodes de relations qui est assez répugnante. Alors, je viens sur la question de la démocratie. Évidemment que nous, c'est ce qu'on a vu tout de suite. Et puis, évidemment, quand on a vu qu'ils touchaient au code du travail, on a dit, ben ça va, on les connaît. On sait ce qu'ils vont faire. Ça va être à nouveau une occasion pour profiter de l'occasion. Et alors, En plus, je leur ai dit, oui, mais je me méfie de vous. Parce que l'état d'urgence, alors ils nous répondaient, oui, non, mais c'est provisoire, vous inquiétez pas. Ouais. Mais on dit, écoutez, vous nous l'avez déjà faite, celle-là, avec l'état d'urgence antiterroriste. Vous avez reconduit 6 fois l'état d'urgence, et puis un jour vous êtes arrivé, vous avez dit, on ne peut pas vivre tout le temps dans l'exceptionnel, donc on va passer tout le contenu de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun. Et voilà comment ils ont fait passer tout ça dans le droit commun. Et alors, si jamais on avait eu un doute, on aurait pu dire, oui, vous faites un procès d'intention, parce que vous êtes excessif, parce que vous êtes l'opposition, blablabla. En attendant, c'est Stanislas Guérini lui-même, le responsable du mouvement La République En Marche, qui s'est directement exprimé devant nous et qui a dit « il faudra penser le moment venu à introduire dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence sanitaire ». Donc, il ne s'en cache même pas. Alors, Daniel Mermet, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais quand même, je vous demande de regarder ce que vous voyez. Vous voyez un peuple de 65 millions d'habitants qui, du fait de l'impéritie de ses dirigeants, qui ont été incapables d'enrayer le démarrage de l'épidémie et de la contrôler, ont condamné un peuple entier à ce qu'ils appellent le confinement forcé. Le confinement forcé, c'est la prison d'habitude. D'accord ? Mais c'est ce qu'on fait. On s'est nous-mêmes mis en prison, il faut dire qu'on n'a pas le choix et qu'il faut rester chez soi. Tu allumes la télé et du matin au soir, tu t'apercevras qu'il s'est produit un grand événement dans ce pays. Il n'y a plus d'opposition politique. Il y a le gouvernement, tous les jours un ministre sur la télé publique, comme dans des pays qu'on connaît, jamais un opposant, et puis des médecins, des experts qui disent des choses contradictoires et qui tiennent lieu d'esprit critique et éventuellement d'opposition. Donc voilà le tableau. Tout le monde s'est autoconfiné et ne s'exprime plus publiquement que des gens qui exercent le pouvoir et qui confrontent leur pouvoir, non pas à la politique, mais aux experts, entretenant l'illusion que quelqu'un détiendrait la vérité. Et bien sûr, quand on entend les experts scientifiques, tout le monde est en état de se rendre compte que c'est une illusion. La vérité, hélas, on doit la chercher, et la décision, elle est toujours politique à la fin. Et on voit des choses extravagantes avoir lieu, comme cette histoire de médicament du professeur Raoul, qui est un médicament qui a été déjà prescrit à 1 milliard de personnes, et que le gouvernement décide qu'il lui faut 15 à 20 jours pour vérifier qu'il n'est pas nocif, alors qu'il est prescrit depuis des décennies, et qui décide de l'utiliser dans des conditions telles que, naturellement, les essais ne seront pas concluants, puisque ce médicament doit être pris au début, et qu'ils ont décidé de ne l'appliquer qu'aux gens qui sont déjà très gravement malades. Voilà dans quel environnement incroyable nous vivons. Les libertés démocratiques, elles sont d'ores et déjà réduites, mises en cause, et c'est le monde d'après, c'est maintenant qu'il faut qu'ils commandent, parce qu'eux, ils ont commencé le leur, dès maintenant. C'est un monde où il y a moins de démocratie, où les peuples sont enchaînés, contraints au silence, confinés, ou seulement ils ne peuvent sortir que pour aller bosser, ramasser des asperges, si par hasard ils n'ont pas de, ils sont, comme ils ont dit, hôtesse d'accueil ou coiffeur, c'est-à-dire des métiers dont le pouvoir estime qu'aujourd'hui ils n'ont pas lieu d'être.
Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on prenne un peu plus de recul, et là je vais m'adresser à l'historien de la politique que tu es. Si on pense aux grandes épidémies, je pense aux pestes du 15e siècle, pense à la grippe espagnole. Ce qui est curieux, c'est comment les historiens ne prennent pas en compte ces grands bouleversements.
Bah, comme tu as raison.
C'est-à-dire que tout se passe comme si, d'une part, on a les scientifiques qui étudient ces phénomènes, et d'autre part, on a le boulot des historiens, mais ça ne coïncide pas. Je relisais Eric Hobsbawm, l'historien que tu connais, et sur la période de la Première Guerre mondiale. Il en parle d'une manière formidable et passionnante, mais il n'y a pas un mot sur la grippe espagnole et les 50 millions ou 100 millions de... Et donc, les conséquences politiques, économiques, etc., de ce genre de phénomène, de mouvement, ne sont pas... On n'est pas familier, tu vois ce que je veux dire. Dans notre conscience historique, c'est des guerres, des luttes, des conflits, etc.
Sais.
On a aussi, de temps en temps, on nous dit « Ah, là, il y a eu une grande catastrophe naturelle, telle ville a disparu, etc. » Mais les épidémies ne font pas partie de notre conscience historique.
Alors, ça, c'est absolument certain. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, j'y vois deux raisons. D'abord, je commence par te dire que... toi, tu as lu un ouvrage plus récent, mais moi, Daniel Mermet, je me suis replongé dans les grandes épidémies de peste. Celle qui m'a intéressé pour d'autres raisons, c'est celle qui a lieu en 1248, parce que à l'époque, il y a déjà pas mal de chroniques. Et le grand chroniqueur de l'époque, celui qui va faire des textes sur les jacqueries et tout ça, qui est Froissart, ne mentionne absolument pas la peste.
Ah.
Il la mentionne une fois comme ça, et pourtant elle a tué aux alentours de la moitié de la population. Donc c'est pas d'aujourd'hui que le commentateur. Pourquoi ? Parce que les commentateurs et les historiens sont eux-mêmes agissent et pensent dans le cadre d'une conception du monde, d'une idéologie. En ce qui concerne Froissart et les autres après, c'était qu'ils en avaient rien à fiche du peuple. Parce que, bon, c'était les petites gens, alors ça valait la peine d'être mentionné quand un grand seigneur mourait, mais pas autrement. Et nos historiens contemporains ne donnent aucune place aux fluctuations du nombre de la population, qui est pourtant un facteur historique déterminant. Par exemple, on ne peut pas s'expliquer le changement historique du néolithique sans tenir compte du fait que c'est parce que la population, tout d'un coup, s'est accrue qu'il y a eu ce changement considérable. Mais le changement de dimension de la population, avec l'agriculture et l'élevage, a créé les conditions des épidémies de masse qui auparavant n'existaient peut-être pas dans les mêmes conditions, parce que les groupes humains ne vivaient pas au contact des animaux. Sur 2500 virus qui tuent un être humain, il y en a plus de 1500 qui viennent des animaux. Et donc, dans le Homo domesticus de Scott, il montre bien ce rapport entre la vie en commun, le rapport des êtres humains aux animaux, ce que ça va donner. Et aujourd'hui encore, la maladie, elle vient, l'épidémie, elle vient d'un virus qui est passé d'une espèce à l'autre, en l'occurrence d'espèce animale, aux espèces humaines. Alors, maintenant, ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'épidémie contemporaine, je vais faire une comparaison que vous allez peut-être trouver un peu audacieuse, mais je veux quand même la faire parce que j'ai même pas eu le temps encore de la mettre par écrit. Cette épidémie, c'est un moment à l'intérieur d'un phénomène de civilisation qui s'appelle la mondialisation libérale, hein, la globalisation libérale. Pas mondialisation, ça a toujours existé. La globalisation libérale. Et c'est donc un symptôme de cette forme d'organisation de la société. Et je veux le rapprocher du précédent échec qu'a connu une autre forme de la globalisation, qui était l'impérialisme du début du XXe siècle, qui a débouché sur la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918. Et la révolution bolchévique, elle éclate pas pour des raisons idéologiques, ça c'est une vue de l'esprit de le croire. Elle éclate parce que les femmes vont à l'assaut du tsarisme pour dire, écoutez, maintenant ça suffit. Il y a déjà 2,5 millions d'hommes qui sont morts, vous êtes incapables de gérer cette situation, tout ce que vous avez à nous proposer, c'est la guerre qui dure, et nous, on en a assez, vous allez arrêter ça tout de suite. Et elles font s'effondrer le régime. Et à la fin, le changement va passer au communisme pour l'unique raison qu'aucune autre formation politique n'est capable d'arrêter la guerre. Eh bien, nous allons connaître quelque chose, je pense, de similaire. C'est-à-dire que devant l'incurie, l'incapacité des gouvernements néolibéraux à faire face à l'épidémie, leur intrinsèque stupidité, parce qu'ils ne sont pas capables de penser le collectif, l'entraide, la planification, des gens, des peuples vont finir par dire « c'est bon quoi, assez, allez faire autre chose, ne vous occupez pas de nos affaires, on va s'en occuper nous-mêmes ». C'est pourquoi je pense que, tu vois, aujourd'hui, le gros angle mort du moment que nous vivons, c'est que personne de ces gens, ceux qui n'ont pas été capables de penser l'entrée dans la crise, sont également incapables d'en penser la sortie. C'est-à-dire qu'il faudra bien un jour sortir du confinement. Quel jour? À quelles conditions? Dans quel domaine? Comment ferons-nous? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas être capable, à nouveau, de dépister massivement les gens pour savoir ceux qui sont encore malades restent confinés, ceux qui ne le sont pas peuvent sortir? Ils sont incapables de prévoir la sortie du confinement. Ils n'ont pas la moindre idée. D'ailleurs, ils seront psychologiquement épuisés s'ils attendent encore trop longtemps pour planifier ce qu'il y a à faire. Bon, bref, c'est pour dire que je pense que ce qui est devant nous est incroyablement plus inouï, plus sans précédent que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il y aura la catastrophe économique. Évidemment, il y aura le choc financier. Bien sûr, il va y avoir la secousse de tous les systèmes, de toutes les structures d'ordre dont la légitimité va être interpellée partout. Alors, voilà Daniel Mermet. C'est un moment qu'il faut vivre comme le moment politique maintenant, pas après. C'est maintenant que c'est en train de se faire.
Merci Jean-Luc. Tu sais, pendant tout cet entretien, par ma fenêtre, je vois en face de chez moi un chantier sur un toit. Et il y a des gars qui sont en train de bosser sur ces toitures. Ils sont 3-4. Alors là, les distances n'existent pas. Et je suis persuadé qu'il n'y a aucune urgence à bosser sur cette toiture. Tu vois, ils me font signe de temps en temps, je fais des petits coucous. Salut les gars. Et ils sont en train de bosser en prenant des risques. J'avais cru au début que c'était simplement pour contrôler, tu vois, parce que c'est un chantier, ça risque de se casser la gueule, il y a des trucs à retendre, etc., je suppose. Mais là, non, c'est pas ça. Ils sont en train de bosser, tu vois, je leur fais signe. Et ça, partie des boulots qui pourraient très bien attendre, quoi, tu vois.
Sans doute, mais tu vois, écoute, Daniel, en dernier mot, quand on leur a dit, il ne faut maintenir que les productions essentielles, ils nous ont répondu, ah ben ça, on n'est pas capable de vous dire lesquelles sont essentielles. D'accord ?
Oui.
Alors, on leur a dit, ben nous, on va vous dire comment faire. Dites ce dont vous avez besoin et réquisitionnez les entreprises. Et tous ceux qui approvisionnent des entreprises réquisitionnées sont des activités essentielles. Ah, ils nous ont dit, oh là là, ils nous ont regardé, tu sais, comme si on était des mouches sur un bol de lait.
Oui.
Et maintenant, tu apprends qu'eux, ils sont capables de pointer quelles sont les productions dans lesquelles on peut faire 60 heures par semaine. Donc, tu vois, ils prennent continuellement les gens pour des imbéciles et ils se moquent de nous. Et évidemment, derrière, c'est des pauvres gens qui trinquent. Ouais. Allez, bon après-midi.
Ok, merci. Merci Jean-Luc Mélenchon et courage
pas
à tous.
Au revoir.
Et à toi aussi. Fais gaffe à ta santé.
Oui, je fais.
Merci à tous. Merci aussi aux abonnés modestes et géniaux de Là-bas si j'y suis, grâce auxquels cet entretien est en libre accès pour toutes et tous. Retrouvez-nous sur le site la-bas.org et surtout, abonnez-vous.